commencer, je vais vous introduire à quelqu'un qui est devenu très cher chez nous. C'est Mark Daly. Mark Daly is the director of education.
Et le directeur d'éducation au centre de santé de McGill. Il est le premier directeur du centre universitaire de santé McGill. Il s'est joint au CUSUM après avoir terminé une formation de thérapeute respiratoire autorisé. Il a travaillé au service d'anesthésie pendant de nombreuses années, je ne vous dirai pas combien, et il a occupé le poste d'assistant-chef technologue en anesthésie pendant plus de 10 ans. Il sait tout ce qui concerne la respiration. Il connaît tout à ce sujet. Il a été officier représentant pour la sécurité des patients. Il a un baccalauréat de l'Université Concordia, une maîtrise en éducation de l'Université McGill. Il fait aussi partie du corps enseignant à l'École des sciences infirmières. Il connaît extrêmement ce sujet de la sécurité des patients. Il a fait partie du programme de développement exécutif offert par l'Institut pour l'amélioration de la santé au Massachusetts, et il travaille également avec le ministère des Santé et Services sociaux au Québec pour la formation, le programme de formation en sécurité des patients et l'initiative sur les compétences liées à ce sujet. Je vais m'arrêter là et je vais demander à Marc de venir au podium et je vous souhaite une excellente conférence. Est-ce que tout le monde m'entend au fond de la salle? Levez la main si vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde, nous avons une journée très chargée. Je vais essayer de ne pas rester derrière le podium, ça me rend un peu nerveux. Donc je vais essayer de marcher le plus possible compte tenu du petit espace que j'ai à ma disposition. Le titre de notre journée aujourd'hui, c'est « Comment transformer la communication infirmière, médecin et augmenter la qualité de ces communications ». Quand on veut transformer quelque chose, ça veut dire qu'on veut instaurer des changements. Et pour instaurer des changements, parfois, il faut des déclencheurs ou des stimuli pour pouvoir vraiment aller chercher le soutien des gens qui pourront nous aider à rendre ce changement possible. Ce que je vais faire au cours des prochaines minutes, c'est de partager avec vous certains de ces éléments déclencheurs pour, je l'espère, vous aider à réfléchir sur la façon dont vous pouvez encourager les gens avec qui vous travaillez, vos équipes, vos collègues, à mettre en place ces changements pour améliorer la communication entre les infirmières, les médecins et nos équipes, moi j'insiste là-dessus, et d'autres professionnels qui pourraient donc contribuer. Ah, voilà, ça fonctionne. Je n'ai rien à divulguer aujourd'hui, donc je vais passer au cliché suivant. Une définition très importante pour nous. Aujourd'hui, la définition de communication, c'est un échange d'informations. Un échange d'informations entre différentes personnes à l'aide de différentes méthodes. Donc, nous avons par exemple des conversations face à face, nous envoyons des courriels, nous envoyons des SMS, des textos, hein, même parfois en conduisant la voiture, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Nous avons toutes sortes de façons de communiquer. Donc, c'est un échange d'informations. Et bien sûr, il y a aussi les façons dont nous communiquons, dont nous échangeons l'information qui rentrent dans cette définition. On échange des histoires. On va partager des histoires de cas. Levez la main si vous avez déjà entendu parler, vu ou participé à une histoire où la communication a eu un impact négatif sur la sécurité des patients. Levez la main. J'ai du mal à voir parce que je suis un peu aveuglée par l'éclairage, mais je pense que presque tout le monde a levé la main. Il y a combien de personnes dans la salle? 350? Donc, entre 300 et 350 histoires sont représentées dans la salle. Donc, pensez à ces histoires. Il y a deux autres histoires que je vais partager avec vous. La première histoire, c'est une histoire racontée par une femme qui s'appelle Sorrel King. Est-ce qu'on pourrait vous présenter la vidéo? Ma fille Josie est décédée il y a un an et demi à l'hôpital John Hopkins. C'était causé par une erreur médicale. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant des médecins, des infirmières et des directeurs de cet hôpital. J'ai parlé de ce qui s'est passé avec Josie et j'ai parlé du programme de sécurité des patients de Josie King que nous lançons. Sorrel King explique dans cette vidéo son expérience avec sa fille Josie, que vous voyez à l'écran, qui avait 18 mois lorsqu'elle est décédée. Elle décrit ce qui s'est passé avec Josie pendant le séjour de Josie à l'hôpital. Et on avait dit qu'on ne devait pas administrer de narcotiques. La mère a tenté d'exprimer cela au personnel, mais le personnel a quand même administré des narcotiques à Josie. Et Cyril King ensuite dit, le cœur de Josie s'est arrêté alors que je lui frottais les pieds. Son regard était fixe et j'ai crié pour obtenir de l'aide. Josie avait 18 mois lorsqu'elle est décédée. Deuxième histoire que je vais vous raconter. L'histoire racontée par Martin Bromley, qui est un pilote, et il a dû prendre une décision extrêmement difficile concernant sa femme Hélène. Il a dû demander qu'on retire ses fonctions, les procédures qui la maintenaient en vie. Sa femme était entrée à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Il y a eu des problèmes d'intubation et finalement, elle est tombée dans le coma. On a dû la débrancher. Et il décrit donc ce qui s'est passé. Il a dit que l'équipe avait beaucoup d'expérience, énormément d'années d'expérience accumulées autour de la table d'opération, mais ils étaient trop concentrés sur une seule chose. Ils essayaient de l'intuber au lieu d'examiner la situation globale pour essayer peut-être d'utiliser d'autres méthodes, par exemple un tube trachéal pour l'intuber. Lorsqu'ils ont interviewé les infirmières ont dit très clairement qu'elles savaient ce qui se passait. De leur point de vue, elles voyaient ce qui se passait et elles savaient quelles devaient être les prochaines étapes. Et en fait, les infirmières ont quitté la salle, sont sorties, sont allées chercher un kit de trachéotomie d'urgence, sont rentrées de nouveau dans la salle et ont donc dit aux gens, nous avons un kit de trachéotomie d'urgence, mais tout le monde était sur l'adrénaline, tout le monde était très, très focusé et personne n'a entendu. Les médecins n'avaient pas la capacité d'entendre et les gens qui pouvaient s'exprimer, qui auraient pu apporter une solution, n'ont pas été entendus. Martin a décrit l'ambiance dans la salle d'opération. Il a parlé de leadership, de priorisation, de prise de décision, de communication et d'assertivité, d'assurance. L'assurance, la communication, tous ces éléments, malheureusement, n'ont pas été gérés de façon efficace et malheureusement, son épouse est décédée. Donc, vous avez tous pensé à vos histoires lorsque vous avez levé la main. Moi, je vous ai raconté des histoires aussi. Ce sont des déclencheurs. On peut utiliser aussi des données pour appuyer le fait que nous savons que la communication peut causer des problèmes, s'il y a rupture de communication, des problèmes au niveau des soins prodigués aux patients. Je veux vous mentionner trois études. Premièrement, un rapport de l'Institut de médecine qui a publié une étude démontrant qu'entre 44 000 et 98 000 personnes sont décédées suite à des erreurs médicales aux États-Unis. Ça, c'était en 99, cette étude. Il y a une autre étude en 2004, l'étude canadienne sur les événements indésirables, qui était donc une étude dans le contexte canadien, et qui a indiqué qu'entre 9 000 et 24 000 personnes sont décédées suite à un événement indésirable au Canada. Un événement indésirable, quelque chose de non prévu qui s'est produit dans le cadre du traitement d'un patient. Cette étude a également démontré qu'un patient sur 13 est victime d'événements indésirables lorsqu'il est admis dans un hôpital pour des soins de courte durée. Donc, si on prenait vos tables, regardez les gens autour de vous qui sont assis à votre table et à la table voisine. Donc, chaque groupe là, de 13 personnes, pour être victime d'un événement indésirable, ça veut dire que vous recevez les mauvais médicaments, même s'il n'y a pas de conséquences graves, ou alors vous recevez le mauvais type de sang, chirurgie sur le mauvais membre de votre corps. Donc, voilà ce qui peut se passer. Il y a une autre statistique intéressante. 37% des événements indésirables auraient pu être évités. C'est ce qui a été dit aussi dans cette étude. Donc, nous avons le moyen d'empêcher ces événements désirables d'arriver, mais ils sont quand même arrivés. Donc, voilà, voilà les chiffres pour le contexte canadien, les chiffres auxquels nous devons faire face en tant que prestataires de soins de santé. Il y a une autre étude ensuite qui a été publiée en 2006 par la commission conjointe aux États-Unis, l'organisme de certification. Ils considèrent surtout la communication, les événements sentinelles, les événements indésirables significatifs. Et ils ont découvert que dans 60% de ces événements sentinelles, c'était la communication qui a été le facteur prédominant, donc pour mener à des résultats négatifs. Donc, vous avez toutes ces histoires, vous avez ces statistiques, et avec tout ça, on peut dire qu'on a un certain poids, des arguments très, très convaincants pour pouvoir mobiliser les gens, pour faire comprendre aux gens qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut obtenir le soutien de tout le monde pour nous aider à régler ce problème. Il y a aussi des systèmes qui sont disponibles que nous pouvons utiliser pour préconiser certains de ces changements et pour faire de ces changements une réalité. Le premier système vient du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et ça s'appelle la structure CanMeds. Cette structure décrit une série de rôles que les formateurs médicaux peuvent jouer à la fin de leur formation, entre autres le rôle de communicateur qui inclut certaines compétences qui sont décrites de façon plus détaillée, si on veut que cette personne puisse jouer le rôle de communicateur. À partir de cela, l'Institut canadien pour la sécurité des patients, en 2008, a pris la structure CanMed et a travaillé avec le Collège royal pour élaborer le cadre pour la sécurité des soins qui est plus, de nature plus interprofessionnelle, qui peut être utilisé par une variété d'intervenants et qui s'appuie sur la structure CanMed, mais il y a aussi d'autres blocs, d'autres modules qui sont intégrés, par exemple celui en bleu qui vise la communication efficace pour la sécurité des patients. Et en plus du premier, premier module, comment changer la culture, comment faire comprendre aux gens qu'il est important de commencer à instaurer des changements, travailler en équipe aussi bien sûr, et plus récemment, vers la fin de cette année, début dans l'an prochain, il y aura le lancement du guide des meilleures pratiques qui sera lancé par l'Association canadienne pour la protection médicale. Le guide des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un guide interactif, un modèle interactif qui sera disponible en ligne et qui pourra être utilisé par des équipes interprofessionnelles. Il y a des cas réels qui sont inclus dans ce guide. Alors, ce sont des cas qui se sont réellement produits. Et il y a aussi une section pour les étudiants et les facultés. La section faculté pourra contribuer donc au développement professionnel du personnel. Et la section étudiante comportera des questionnaires que les étudiants pourront imprimer, des certificats de participation également. Donc, ce sera vraiment un outil très intéressant pour le corps professoral qui pourra intégrer cela dans le programme d'études. Et c'est un outil qui pourra s'ajouter aux outils qu'on utilise déjà. Et c'est également très intéressant pour les gens qui travaillent dans le milieu des soins de santé, parce que c'est une façon de voir comment on peut tirer avantage de cela pour le développement professionnel, le perfectionnement professionnel. Nous avons des cadres, des systèmes, des structures. Et ensuite, les stratégies. Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer la communication? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme stratégie pour instaurer des changements? Premièrement, on pourrait utiliser quelques modèles de communication, comme le modèle S-Bar. Je vais poser cette question et je suis sûre que le même nombre de personnes lèvera la main. Qui sait ce qu'est le modèle S-Bar? Levez la main si vous le connaissez. Très bien. Prochaine diapo. Le modèle S-Bar. Très rapidement, c'est un modèle de briefing situationnel qui a été élaboré par les services militaires, utilisé ensuite dans l'aviation et ensuite par le personnel médical. Donc essentiellement, est-ce que c'est moi qui ai fait ce bruit? J'ai marché sur quelque chose? Est-ce que je dois... Ça veut dire que mon temps s'est écoulé? Et qu'est-ce qui se passe là quand le temps est écoulé? On nous jette en bas du podium. Alors, c'est un modèle de briefing situationnel. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il aide les gens à structurer une conversation en incluant l'information que les gens jugent comme étant plus pertinent lorsqu'il s'agit de demander de l'aide à quelqu'un. Donc, par exemple, il y a un patient, il y a quelque chose qui me préoccupe tellement que je dois prendre le téléphone et appeler un collègue, appeler un médecin pour obtenir de l'information additionnelle. Donc, l'idée de ce modèle historique, évaluation, recommandation, situation, c'est que ça devrait prendre de 10 à 15 secondes et ça permet de fournir de l'information concrète. On a vu par le passé, lorsqu'on a commencé à mettre cela en œuvre, bon, il y a peut-être un médecin qui n'est pas sur l'étage, il y a peut-être une infirmière qui est là, qui est préoccupée par le patient, l'infirmière prend le téléphone, appelle le médecin, se présente, présente le patient, explique un peu de qui il s'agit et peut-être qu'à ce moment-là, il y a pas mal de détails qui sont transmis. Bon, ça a été très compliqué. Le patient est instable depuis quelques heures. On a tenté ceci, cela. On ne sait pas trop si ça marche. Le médecin de la patiente est là. Il est très préoccupé. On a dû faire venir quelqu'un pour offrir du counseling. Si ça prend 15 secondes et que la personne au téléphone a son téléphone cellulaire et à l'hôpital utilise son cellulaire ou alors à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital, la communication peut être interrompue pour une raison X. La communication est coupée, parfois ça arrive avec les téléphones cellulaires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que le médecin sait au sujet de la patiente? Le médecin ne sait pas vraiment ce qui se passe. Si vous changez cela, si vous remplacez ce type de communication par une communication S-bar, l'infirmière se présente, présente le patient, explique qu'à l'heure actuelle, la tension sanguine est de 80 sur 40, par exemple, était de 1,10 sur 70 un peu plus tôt, et que le pouls était 65 il y a une demi-heure, etc. À ce moment-là, la communication peut s'arrêter. Qu'est-ce que le médecin sait au sujet de la patiente? Le médecin a déjà une certaine idée de ce qui se passe chez cette patiente. Donc, on veut que cette information soit fournie en premier. Et c'est comme ça que le modèle S-Bar peut nous aider. Ensuite, il y a l'historique. historique. Donc ça, c'était la situation. Ensuite, l'historique. Qu'est-ce qu'on a fait? On pense que qu'est le problème. Donc ensuite, on peut faire des suggestions et ensuite on arrive à l'évaluation, une recommandation qui peut être une recommandation clinique ou alors l'infirmière peut dire je pense que vous devriez venir voir cette patiente immédiatement. Ça peut être la recommandation. Donc voilà l'avantage du modèle SBAR que nous enseignons à McGill aux étudiants à la faculté de médecine et des sciences infirmières lors de la deuxième année. Et je reçois beaucoup de feedback de la part des étudiants qui sont encouragés par ce modèle parce que ça les aide à formuler leurs réflexions dans un environnement qui est nouveau pour eux lorsqu'ils arrivent dans un hôpital.
Ça, ce n'est qu'un exemple de ce à quoi peut ressembler cette feuille SBAR ou S-H-E-R en français. Alors, c'est ce qui est pertinent pour le patient à ce moment donné. Deuxième modèle est un modèle qui dissèque davantage et qui fonctionne selon une hiérarchie. En augmentant le niveau d'urgence, en faisant appel à un langage différent à chaque fois que l'on parle à la personne à qui on parle. Alors, pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler comme hiérarchie à l'extérieur du soin de santé, je vais vous montrer une courte vidéo.
Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar.
Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Est-ce que vous nous entendez? Nous coulons. Nous coulons.
This is the German.
Oui, vous êtes. Nous sommes la garde côtière de l'Allemagne. Nous coulons, nous coulons. Vous pensez à quoi? Sinking. We are sinking. Jeu de mots. L'accent allemand dit sinking au lieu de... Bon. Thinking, sinking. J'adore ce clip vidéo. Bon, ce clip vidéo démontre plusieurs choses. Pour moi, il prouve à quel point ça peut ressembler hiérarchie. Il y a ce jeune employé qui est devant combien de pitons et la personne qui a plus d'expérience avec la barbe, le café, qui est vraiment très sûr de lui. Le jeune, il est intimidé et il se pose la question, mais qu'est-ce que je ferais si, que m'arriverait-il? Et ce clip vidéo est une annonce pour un cours de langue à l'Institut Berlitz. C'est drôle. Moi, j'étais avec un de mes collègues, Lucius, qui a vu cette vidéo et a tout de suite a pensé, Marc va intégrer ça dans une conférence à un moment donné, c'est sûr. Alors, si vous avez quelques discours à faire en communication, en tout cas, si vous avez vu un de mes discours, vous avez déjà vu ce clip. Alors, en faisant appel à ce modèle, alors, on commence avec un argument, niveau 1. Et numéro 2, si on ne trouve pas que le niveau 1 ait été satisfaisant. Donc, 1, observation ou inquiétude. 2, option ou alternative. Une question avec une solution potentielle. Donc, il faut que la personne réponde. Et il y a des conséquences, normalement. Que va-t-il arriver si on ne suit aucune mesure? Alors, niveau 3, remise en question sous clarification. Question directe du mandat et une réponse. Et niveau 4, action, ordre direct. Instruction claire et conséquences possibles. Lorsque j'enseigne ceci, je le dis clairement aux gens à qui j'enseigne. Si vous rentrez dans la salle du patient, vous dites « Bonjour, Mme Jones, comment allez-vous? » Et Mme Jones est moribonde comme ceci. Elle ne réagit pas, elle ne bouge pas. Évidemment, vous ne commencez pas au niveau 1. Vous n'allez pas dans le corridor et vous ne dites pas « Helen, pensez-vous que vous pourriez venir voir la patiente? Elle n'a pas l'air super bien. » Vous allez directement au niveau 4 qui est action, ordre direct, instruction claire et conséquences possibles. Alors, dépendant de la sévérité de la situation, vous commencez à un niveau différent. Je vais passer à travers un exemple rapide à l'extérieur du domaine de la santé. Donc, vous êtes un nouveau employé, vous commencez tout nouveau, vous êtes bleu au sein de votre organisation, votre PDG vous a demandé de participer à une réunion avec eux. Vous êtes tout nouveau, je l'ai déjà dit. Le PDG, c'est le PDG, et il y a évidemment des niveaux de hiérarchie entre ces deux individus dont il est question non plus. C'est l'hiver, il y a une tempête, le PDG se précipite pour arriver à la réunion à temps, et vous êtes le tout nouveau, vous êtes assis dans le siège de mort, et vous êtes terrifié parce que les conditions climatiques sont épouvantables, la conduite, c'est blanc, vous êtes aveuglé, etc. Alors, évidemment, parce que vous êtes au sein de cette hiérarchie potentielle, vous vous dites, oh, les conditions routières sont terribles aujourd'hui. Et ils vont dire, oui, les conditions routières sont terribles, mais j'ai beaucoup d'expérience, ça va très bien aller. Et ils continuent. Alors, ils vont peut-être aller au niveau 2 et l'employé va dire, avez-vous vu vu ce véhicule tomber comme ça sur le bord de la route devant nous? Avez-vous, il est passé dans le fossé. Il va dire, oui, mais maintenant, ils ne sont plus devant nous, là, un obstacle en moins, on peut continuer à aller très vite en avant. Et vous pouvez passer au niveau 3, dire, je pense que vous devriez ralentir le véhicule, parce que si vous ne ralentissez pas, nous allons nous aussi nous retrouver dans le fossé. Non, ça va très bien, je conduis avec beaucoup d'assurance, tout va bien aller. Eh bien, niveau 4, vous diriez quoi? Ralenti. Arrêtez, baissez la fenêtre. J'aime mieux mourir d'hypothermie sur le bord de la route. Je ne veux pas être victime d'un traumatisme aigu. Bon, ce genre de choses. C'est un exemple. Tentez de traduire ça dans votre environnement de soins de santé. Et vous remarquerez que les signes vitaux sont différents. Peut-être que vous devriez faire ceci, cela pour rétablir les signes vitaux. Peu importe. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Peu importe le symptôme clinique que vous êtes en lieu d'observer. Donc, pensez à ça et vous grimpez les échelons. Alors, ce qui est vrai avec la communication et que je découvre parfois, c'est qu'on demeure au niveau neutre plus longtemps qu'on ne devrait le faire. Et on devient frustré lorsqu'on transige avec quelqu'un. Qui a tenté de parler à quelqu'un, de tenter de leur expliquer quelque chose et ils ne comprennent pas? Et vous vous entendez dans votre tête dire, mais vous comprenez pas, là, vous comprenez pas. Levez la main. Et vous avez envie de les étrangler, de les secouer, de leur dire, mais écoutez-moi! Non, vous avez envie de les forcer à comprendre. Si vous vous trouvez dans cette situation, eh bien, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de prendre 5 minutes. Cessez de parler. Pensez aux 2 dernières phrases que vous avez formulées. Et si les 2 dernières phrases, selon vous, semblaient être des déclarations neutres, vous ne passez pas au prochain niveau. Pensez-y. S'il y a 2 déclarations, 2 énoncés neutres, vous devriez inclure une solution potentielle ou une question. Vous devriez être plus direct et impliquer des conséquences si rien ne se fait. Et vous devez penser à dire clairement ce que vous aimeriez qu'il fasse. La prochaine fois que vous êtes dans cette situation, prenez ce 5 secondes, réflexion rapide. Voyez si vous faites appel à ce modèle, comme vous pourriez vous en servir pour améliorer les communications. Voici un exemple de ce que vous pourriez faire, changer comment vous communiquez à chacun de ces niveaux. Alors, premier niveau, impersonnel. Deuxième, question. Troisième, conséquence. Nous nous retrouvons dans le fossé si vous ne ralentissez pas. Et quatrième, ordre avec, conséquence directe. Vous allez consulter un collègue, une nouvelle infirmière qui dit « Je ne suis pas à l'aise, je suis mieux d'aller plus haut ou d'aller voir une autre personne ressource. Si c'est une question pharmaceutique, peut-être ce serait une bonne idée de consulter un pharmacien parce que je pense que notre protocole nous dit que nous devrions fonctionner comme ceci ou comme cela. » Donc, vous pouvez engager d'autres membres de l'équipe également au niveau de l'ordre direct, au numéro 4. Un petit sommaire rapide. Alors, communication, c'est un échange d'informations et des histoires de cas que vous avez à l'esprit. L'histoire de Josie King, 18 mois lorsqu'elle est décédée à cause de l'usage de ses narcotiques. Eumann Bromley, les difficultés avec l'intubation. Son mari qui a eu à prendre cette décision très difficile alors qu'elle n'avait que 35 ans. Baker Norton Canada, donc des statistiques. 1 patient sur 13 est victime d'effets indésirables. 37% de ces effets indésirables auraient pu être évités. Alors, également, la commission conjointe aux États-Unis dit que 60% des événements sentinelles ont révélé un bris de communication comme facteur contributif majeur. Alors, les systèmes, le système de stratégie, faites attention lorsque ça va être lancé, ça va être à la fin de cette année ou début de l'année prochaine, vont fort mieux s'apprendre et apprendre aux autres comment fonctionner. Donc, comment faire appel aux stratégies, le modèle S-bar et les niveaux d'affirmation. Alors, profitez-en. Nous avons toute une journée devant nous qui va être très intéressante. Profitez-en. J'aimerais remercier Mark qui nous a vraiment bien lancé en affaires. Si vous avez des questions à lui poser, Mark va faire partie d'un panel directement après le petit déjeuner. Alors, je vous encourage fortement à garder à l'esprit vos questions et cela va lui faire très plaisir d'y répondre. Donc, profitez du petit déjeuner, comme je l'ai déjà dit, et comme l'a dit Mark, je serai direct, je vais vous donner un ordre. Donc, quittez et revenez ici pour 9h35. Bon appétit.